Un été avec Bernstein, Emmanuel Franc, France Musique.
Bonjour à tous. Hier, nous avons suivi Lenny durant sa longue et belle aventure avec le New York Philharmonic jusqu'à la fin de l'année 69 et j'ai volontairement omis d'évoquer une de leurs plus importantes activités, les séries d'émissions pédagogiques télévisées, les fameux Young People's Concerts. Retour donc au début des années 50. Il faut dire que Lenny et l'enseignement est un sujet à part entière. Partager son savoir de la musique est sans aucun doute une mission, un don, mais aussi un destin. Un jour qu'il est à Carnegie Hall, dans les années 70, il repense à son premier concert sur cette même scène en 1943. Il avait 25 ans et a été propulsé grand espoir de la direction d'orchestre. Mais il y avait un autre signe. Le concert était enregistré, comme si son succès allait aussi tenir des médias. L'histoire de Lenny avec la télévision commence en 1954. Pour la première fois, il présente une émission musicale pour adultes dans le cadre d'un programme culturel qui a pour titre Omnibus. À cette occasion, Lenny prend conscience de l'extraordinaire pouvoir de la télévision. Sa première émission a marqué le public à tout jamais. Il propose une analyse de la 5e symphonie de Beethoven et pour cela, il fait peindre la partition au sol et montre les notes du pied.
Nous avons ici peinte par terre une reproduction de la page 1 de la grande partition de la 5e de Beethoven. Je suis stupéfait chaque fois que j'étudie cette musique de voir combien elle est simple, juste et économe. En fait, chaque mesure de ce mouvement repose directement d'une façon ou d'une autre sur ces quatre notes, trois sols et un mi bémol. Qu'y a-t-il dans ces trois sols et ce mi bémol, trois croches et une blanche, de tellement suggestif et significatif qu'ils arrivent à donner naissance à un mouvement symphonique?
La partition au sol est vraiment une idée géniale parce qu'elle permet de visualiser les musiciens individuellement et donc de percevoir comment est fabriqué le son collectif.
Thank you. from Philharmonic Hall in Lincoln Center, home of the world's greatest musical events. Another program in the award-winning series, the New York Philharmonic Young People's Concerts, under the musical direction of Leonard Bernstein.
And here is Mr. Bernstein.
4 ans plus tard, en 1958, lorsque Lenny prend la direction de l'orchestre, le New York Philharmonic a déjà une tradition de concert pour la jeunesse. Mais c'est une animation poussiéreuse. Il pose comme condition à son engagement d'en prendre aussi la direction et de révolutionner le genre en le présentant à la télévision. Il faut dire qu'à l'époque, la télévision en est à ses tout débuts et qu'elle est affamée de contenu. L'enjeu est de taille, car si nous nous remettons dans le contexte, créer une émission de télévision consacrée à la musique classique n'était pas gagné du tout. Une nouvelle génération de musiciens très très populaires est en train de surgir. Qu'elle n'emmène pas large lors de la première émission. Le concept est entièrement neuf et Lenny n'a aucune idée de ce qui va se passer. Juste avant de monter sur scène, alors qu'il ne sait pas que son micro est déjà ouvert, on entend son inquiétude. Il semble manquer de temps pour on ne sait quelle idée de dernière seconde, à moins que ce ne soit de la laque pour ses cheveux.
And here is Mr. Bernstein.
Give me that spray. Behind it, the spray. Oh, there's no time. No time.
Habituellement, lors des conférences pour la jeunesse traditionnelles, les avions en papier volaient et les enfants bâillaient. Et là, Lenny bondit sur scène, dirige l'orchestre quelques minutes, se retourne vers eux, s'approche du bord de la scène, s'adresse à eux les yeux dans les yeux et il l'écoute, intrigué, puis médusé.
Thank you.
Ok. À votre avis, de quoi est-il question, cette musique? Vous pouvez me le dire? J'étais sûr que vous alliez dire ça. Les cow-boys, les bandits, les chevaux, le Far West. Je sais que ma fille Jamie, qui a 5 ans et qui est assise là-haut, est du même avis. Lorsqu'elle m'a entendu jouer cette pièce, elle a dit « Oh, la chanson du dernier des fédérés !» Eh bien, je suis désolé de la décevoir, et vous aussi, mais il n'est pas du tout question du Far West. Il est question de notes. Là, un mi bémol, et là, un fa dièse. Peu importe le nombre d'histoires qu'on a pu raconter sur ce que peut signifier la musique, oubliez-les. La musique n'est jamais à propos de quoi que ce soit. La musique est, tout simplement. La musique, c'est des notes, des belles notes et des beaux sons mis ensemble et agencés de telle manière que ça nous donne du plaisir à les écouter. Et c'est tout ce qu'il y a à en dire. Quand nous nous demandons qu'est-ce que cette musique veut dire en particulier, on pose une question extrêmement difficile. Et c'est une question à laquelle nous allons essayer de donner une réponse aujourd'hui. Maintenant, il y a un truc rigolo à propos de cette histoire de donner un sens à la musique. Quand vous vous demandez vraiment ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'elle essaie vraiment de me dire, quelles sont les idées derrière? C'est comme avec les mots, vous avez des idées derrière. Quand je dis « Oh, je me suis brûlé les doigts », vous avez immédiatement une idée ou quelques idées de ce que je viens de dire. L'idée que je me suis brûlé les doigts, que ça fait mal, et que je ne pourrai peut-être plus jamais jouer du piano, et que j'ai une grosse et horrible voix quand je crie. Toute une série d'idées comme ça. Ça, ce sont les mots. Mais si je joue une note, ces notes n'évoquent aucune idée particulière. Elles peuvent être à propos du fait que vous vous êtes brûlé les doigts, de Spoutnik, d'un abat-jour ou de fusée. Mais alors, du coup, de quoi parlent-elles? Leur sujet, c'est la musique. Par exemple, prenez cette pièce de Chopin. Magnifique, n'est-ce pas? Et de quoi ça parle? De rien. Ou prenez cette sonate de Beethoven. Ça aussi, ça ne parle de rien. Et si vous prenez ce morceau de Boogie Woogie? Ça ne veut rien dire non plus. Aucune d'entre elles ne parle de quoi que ce soit, mais c'est un régal de les écouter.
Lenny joue les mômes. Jamie, sa fille, dit « Une chose que j'ai toujours aimée chez mon père, c'est qu'il n'avait pas peur d'être bête ou ridicule. Il faut dire qu'avec Guillaume Tell, un certain Spike Jones s'était déjà bien amusé. »
It's a beautiful day for the race. Stooge Hand is the favorite today. Assault is in there. Dog Biscuit is 3-1. Safety Pin has been scratched. And at 20-1, Beetlebum. Now the horses are approaching the starting gate. And there they go! Stooge Hand going to the front. Cabbage is second on the rail. Beautiful Linda is third by a length. And Beetlebum. Around the first turn, Stooge Hand is still in front. Cabbage is second by a head.
Cabbage by a head!
Beautiful Linda is third. And Beetlebum. Into the back stretch, Dog Biscuit is now leading the pack. Lady Evelyn is second, very close. Banana is coming up through the bunch.
Banana coming up through the bunch!
And Beetlebum. At the half, Stooge Hand still out in front. Apartment House is second with plenty of room. Assault is passing Battery.
Assault and Battery!
Notary Sojack is fourth. And in last place by 10 lengths, I believe it is. Yes, it is Beetlebum. around a turn, heading for home. It's Stooge Hand and Dog Biscuit and Girdle in the stretch. Flying Sylvester is third, and Mother-in-Law nagging in the rear.
Oh, oh, oh!
And now they come down to the wire, and it's number one, and now number two, and it's very close. It'll either be a photo finish or an oil painting. And now Lewis leads with a left, and Lewis is in there slugging, and it's a battle, and now they're tearing hair. There's hair all over the ring, there's hair all over the place. I don't know whose hair it is. It's mine. And there goes the winner!
Les plans sur le public montrent les enfants au bord du fou rire. Qu'est-ce que c'est que cet adulte en costume-cravate qui joue les guignols et les fait participer au quart de tour ?
Qu'est-ce qui rend cette musique si excitante alors ? Il y a des millions de raisons et ce sont toutes des raisons musicales. Ça, c'est la chose la plus importante. Par exemple, prenez le rythme qui ressemble à des chevaux au galop. Ou à des roulements de tambour pendant une bataille. Cela ne signifie pas pour autant que cette musique signifie des chevaux ou une bataille. Le sens en est seulement l'excitation que procure ce rythme. L'autre raison, c'est qu'il est doté d'une mélodie sacrément efficace. Un air qui est facile à retenir et qui vous remue les sangs. Ça commence par une phrase ascendante et au top. En réponse, une phrase descendante, comme une dispute où la deuxième personne finit par gagner. Alors essayons, vous et moi, de prendre en compte cette dispute pour voir qui la gagne. Je vais vous dire la première phrase, et vous allez me répondre avec la deuxième. Et je vais vous répondre à mon tour avec la troisième phrase, et vous allez conclure avec la quatrième. Prêt ?
Go !
Vous avez gagné.
Come on, sister. Gather a crowd around you. Make a pitch. Get hip.
Yes, sir. Hip. Get hip. Get hip. Step up. Step up. Step up. Step up. Get hip. Get hip. Come on down to the Village Vortex, home of that new jazz rage swing. Rock and roll to the beat, beat, beat of Speedy Valenti and his crazy cats.
Hey, cats, get a load of the square.
Swing, dig the rhythm. Swing, dig the message. The jive is jumping and the music goes round and around. Whoa!
Get her!
Goes around and around. Cats, make it solid. Cats. Make it groovy. You gotta get your seafood mama. Your favorite dish is fish. It's your favorite dish. Don't be square. Rock right out of that rocking chair. Truck on down and let down your hair. Breathe some barrel house air. The Village Vortex. Swing. Take the rhythm. Swing. Take the message. The jive is jumping and the music goes round and around. Get full of furiyakisaki. Get full of the sound of swing. The solid groovy jivey sound of
swing. Take the rhythm. Swing. Take the message. The jive is jumping and the music goes round and around. Whoa!
Whoa. Oh! Well, all right then, cats.
Yes, yes, baby, I know.
Well, yes, yes, baby, I know that old man.
Saint Louis kicked the bucket, the old oaken bucket that hung in the well, 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 baby, I know. No, no, was it red? No, 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 was it green? Green, green is the color of my true love's hair. Hair breath, Harry with the Floyd, 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 Floyd,
On ne retient que Lenny lorsqu'on évoque les Young People's Concerts. Mais s'il a inventé le concept, c'est son réalisateur Robert Englander qui l'a mis en forme. Le dispositif était compliqué, puisque Lenny naviguait sur scène entre le podium, le piano et le devant de la scène lorsqu'il s'adressait aux enfants. Il planquait partout des petites antisèches dans les partitions, sur le piano, mais il devait tout écrire et tout apprendre par cœur. Un supplice, d'autant, bien évidemment, que de nouvelles idées surgissaient et qu'il imaginait des changements de dernière minute, de quoi rendre folle son équipe technique. Mais il y en a d'autres qu'il a fait tourner en bourrique, tant que les prompteurs n'existaient pas, sa famille.
I wrote these 90-minute scripts and had to memorize them.
J'écrivais ces textes de 90 minutes et je devais les mémoriser. J'y allais le dimanche à 5 heures ou je ne sais plus quelle heure. Et ce que je faisais, tout le monde le voyait à la télévision dans tout le pays en même temps. Et j'oubliais souvent mon texte, car je passais mes nuits à écrire et réécrire, à couper, à participer à des réunions et à essayer de mémoriser. Ma femme, je me rappelle, s'asseyait avec moi et des amis aussi pour m'aider à répéter et mémoriser le texte. Mais ils s'endormaient, et je devais leur arracher le texte des mains pour me débrouiller seul et mémoriser, juste mémoriser.
Lors d'un long entretien, Lenny dit au journaliste Jonathan Cott « Même si je ne peux pas le prouver, je sais au plus profond de mon cœur que tout le monde naît avec le désir d'apprendre. Il faut qu'on trouve un moyen de rapprocher la musique et les gosses tout autant que d'enseigner aux professeurs à découvrir leur propre amour de l'étude. » C'est alors que commence le processus contagieux. Mais Lenny a tout de même un don en plus et sans doute un avantage. Il a lui-même 3 jeunes enfants auxquels il veut transmettre son amour de la musique. Jamie, la fille de Leonard Bernstein.
The day began very early, which was awful.
La journée commençait vraiment très tôt, ce qui était horrible pour mon père, parce qu'il n'était vraiment pas du matin.
Il ne dormait jamais et se lever à 5 heures était vraiment une torture pour lui. Il avait une répétition à 7 heures du matin. Alors, on se levait à l'aube et on prenait notre petit déjeuner à moitié endormi. On traversait la ville en voiture jusqu'à Carnegie Hall avant que le Lincoln Center ne soit construit.
Un été avec Bernstein, Emmanuel Franc, France Musique.
Arrivé au Carnegie Hall, Lenny lâchait ses mômes qui couraient partout sur le plateau, au balcon et à la régie. 7 heures, répétition avec l'orchestre. 9 heures, répétition en habit et avec les caméras. 14 heures, le show.
And then when the whole thing was over, we would have to wait.
Et quand tout était fini, nous devions attendre que notre père ait signé 300 autographes en coulisses. Enfin, papa venait nous récupérer. On remontait tous dans la voiture et on allait dans le Connecticut pour retrouver notre mère et notre petite sœur, qui était bébé, pour le dîner. Et à la seconde où on était dans la voiture, mon père disait « Oh, on va brancher la radio !» Ce qui voulait dire qu'on se mettait sur les stations pop pour écouter du rock parce qu'il adorait la musique que nous écoutions. Il adorait les Stones, les Beatles, le R&B, il aimait les disques de la Motown, les trucs que nous écoutions. Donc on écoutait la musique sur la route du Connecticut et une fois on a entendu les Kings chanter « You really got me !»
You really got me going, you got me so I can't sleep at night, da-na-na-na-na. And our father said,
hey, cette chanson, elle est sur un mode mixolydien. Savez-vous ce que c'est qu'un mode?
Now, this is the only major mode that has a lowered seventh tone.
C'est le seul mode majeur qui a un septième degré bémol. La plupart du temps, le jazz, la musique cubaine et le rock doivent leur existence au mode mixolydien, comme ce riff cubain. C'est juste du mixolydien. Est-ce que vous entendez à quel point ce jazz est mixolydien? Les exemples sont sans fin. Vous vous souvenez de ce fameux morceau d'il y a quelques années? Une chanson des Kinks. Cela s'appelle You Really Got Me.
Girl, you really got me going. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really da-da-da. That's all mixolydian.
Et les mômes du public ont adoré que le grand Leonard Bernstein leur parle de rock.
Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing now. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me.
Thank you.
Lenny a produit une cinquantaine de Young People Concerts et a proposé des émissions sur des questions difficiles, mais toujours posées simplement. Qu'est-ce que la forme sonate? Qu'est-ce qu'une mélodie? Qu'est-ce qu'un concerto? Qu'est-ce que l'orchestration? Et même l'humour en musique.
La première et la plus simple manière d'être amusante pour la musique, c'est tout simplement d'imiter la nature. C'est une des plus vieilles manières de vous faire rire que d'imiter les choses et les gens, comme les comédiens imitent les célébrités, comme par exemple la voix de Greta Garbo ou de Catherine Hepburn. Mais la manière dont la musique fait ça, c'est d'imiter des sons que nous connaissons tous, comme les moustiques ou le train, les poulets ou même un grand éternuement. Cette histoire d'imitation remonte aux tout premiers compositeurs, comme le français Rameau, qui a écrit un tas de choses pour clavecin, où il a imité les coucous, les coqs.
Son génie est vraiment de résumer des questions abstraites en un mot compréhensible de tous. Il propose des quiz et des hommages à Gustav Mahler, évidemment, à Ives, Hindemith, Copland, Sibelius, Shostakovich, Beethoven, et il fête l'anniversaire de Stravinsky, partageant ainsi avec les enfants la large palette de ses grands amours musicaux. Il ne fait pas de grands discours pour faire entendre Stravinsky. Il leur raconte tout simplement l'histoire de Petrushka comme un conte à dormir debout. Enfin, il laisse sa baguette à de jeunes espoirs, ses assistants, c'est-à-dire ceux qui apprennent le métier à ses côtés au New York Philharmonic.
Nous allons d'abord entendre l'assistant italien très doué, Claudio Abbado.
Je ne vais pas vous faire écouter le Ravel que Claudio Abbado a interprété ce jour de l'année 1963, mais un extrait de l'Adagio de la 9e de Mahler. Je trouve très émouvant de voir ce jeune homme, grand escogriffe tout emprunté, l'air presque sévère, dirigé sur le podium de Leni. Il n'a été son assistant qu'une année, et cela l'a marqué. Leni voulait le garder, mais Abbado dit « J'étais trop imprégné d'une culture européenne pour m'éloigner du vieux continent. Pourquoi Mahler alors ? Pour moi, le compositeur les relie indéfectiblement.
Thank you.
Lors d'une autre émission, en 1960, un tout jeune homme qui a vraiment l'air d'un gosse, les cheveux noirs, courts, les yeux pétillants, il arrive en trombe sur scène, sautant comme un cabri.
Monsieur Ozawa s'est fait une splendide réputation, dans ce pays comme dans le sien, et je pense qu'il est parti pour un avenir brillant. Je vous invite à penser de même lorsque vous l'aurez entendu jouer l'ouverture du mariage de Figaro. Voici donc Seiji Ozawa.
Seiji Ozawa a été recruté par Lenny de façon bien peu orthodoxe. Après avoir gagné le premier prix de Besançon, il passe un été à Tanglewood, bien sûr, l'école d'été, pour former tous les jeunes chefs d'orchestre.
Été 1960, j'ai gagné le prix Koussevitzky à Tanglewood. Et c'est pour ça que Bernstein a dit qu'il me voulait comme assistant. J'ai passé le test avec lui à Berlin. L'orchestre de New York revenait de Russie et j'ai vu Bernstein en coulisses. Alors on est parti avec l'équipe au Rififi Bar. Le Rififi était un piano bar sombre, louche. Et c'est comme ça que j'ai passé mon examen. Et puis il m'a dit « Viens à New York pour être mon assistant l'année prochaine ».
Au total, CBS a produit 53 Young People's Concerts, de 1958 à 1972, à raison de 3 ou 4 émissions chaque année. Ces émissions étaient diffusées en prime time, à 19h30, à une époque où les familles américaines n'avaient qu'une seule et énorme télévision dans le salon. Tous les membres de la famille devaient choisir et regarder ensemble le même programme. Rapidement, les Young People's Concerts sont devenus un événement télévisuel que les Américains se préparaient à voir comme une fête familiale.
That was very good, by the way. C'est très difficile. Je félicite. chanter. Et l'archer, léger possible. C'est très bien, mais les crescendos sont hors de proportion pour pianissimo. Hein? Et forte, c'est ici, très très fort, léger avec l'archer. Si. Et c'est de la sonorité. Ok. Il faut calculer comment est-ce qu'on va de.
On accélère depuis ici.
Il ne faut pas savoir qui joue. C'est un cœur d'ange, musique de sphère. Ok, c'est ça.
Cette façon qu'avait Lenny d'expliquer son monde musical comme s'il délivrait les secrets d'un monde merveilleux tenait du génie d'un pédagogue. Mais était-il différent selon son auditoire ? Voyons cela lors d'un cours d'interprétation au Conservatoire américain de Fontainebleau en juillet 87 et que Patrick Souillot et Bruno Ferrandis, deux jeunes chefs, travaillent avec lui la symphonie numéro 4, opus 120 de Robert Schumann. Et à y regarder de près, que se passe-t-il quand il répète avec un orchestre ?
A tempo, alla breve, sans piano. Quel numéro ?
24.
Je n'entends rien. Fortissimo. Hein? Et plus. Solo. Encore une fois. Et c'est très beau, petite clarinette. Mais c'est pas assez fort.
Toute sa vie, Lenny retournera à Tanglewood, la fameuse école de direction d'orchestre créée par Serge Koussevitzky avec le Boston Symphony Orchestra, là où il a vraiment découvert la joie de diriger un orchestre. Il a été l'assistant de son maître à penser la musique. Puis en 51, après sa mort, il a pris sa relève et chaque année, il est venu donner des masterclass. Mieux, il a essaimé le principe, créant des mini-Tanglewood à Los Angeles, Sapporo au Japon et Salso en Allemagne. Dans les années 70, Lenny produit une série de documentaires. Il s'agit d'introductions à des œuvres de Beethoven, Brahms et Schumann, Tchaïkovski aussi. Il fait des commentaires d'œuvres, donne des informations biographiques et historiques et finalement, tout simplement, des consignes d'écoute. Et puis en 73, il revient sur le campus d'Harvard pour donner une série de conférences. La direction de l'université est débordée. Il faut trouver très vite une salle plus grande. Le thème de ces conférences n'est pourtant pas des plus amusants. Lenny, passionné par les recherches linguistiques de Chomsky, essaie d'en appliquer le principe au langage musical. Et il donne même en Israël des cours de musique à de très jeunes enfants.
Il doit y avoir quelque chose en nous et en moi qui me fait continuer. Enseigner, c'est croire en la continuation. Partager avec vous un regard critique sur le passé, essayer de décrire et d'évaluer le présent. Tout cela implique une ferme foi dans l'avenir.
Comment ne pas aimer Lenny ? Ne pas éprouver de la gratitude quand on comprend à quel point, lorsqu'il nous parle de musique, il nous offre le plus précieux talisman de toute sa vie. Oui, certainement, il avait un don qu'il a préféré appeler « instinct » dès son premier succès à la télévision.
I realized suddenly.
J'ai soudain compris que mon instinct de pédagogue, j'en avais hérité de mon père et de tous mes professeurs qui m'ont appris comment on enseigne, cet instinct presque rabbinique pour instruire, expliquer, formuler, trouvait un véritable paradis dans le monde électronique de la télévision. Il l'a souvent répété, l'enseignement est la plus noble des professions, la plus dévaluée, la moins rémunérée, mais la plus haute. Et plutôt que de nous servir l'éternelle tarte à la crème de la plupart des enseignants qui nous expliquent toujours qu'enseigner, c'est aussi apprendre, il avoue
« J'adore enseigner. Et plus qu'enseigner, j'adore voir les gens apprendre. Ça, c'est le vrai plaisir de cette affaire. » Ce n'est pas ensemble parce que tu fais le geste sur le temps, pendant qu'il joue. C'est trop tard. Tu ne peux pas faire. Il faut leur montrer avant. C'est l'essence même de la direction, ok? Préparer ce qui vient.
Deux avant huit, s'il vous plaît.
Non, un peu avant. Car quand tu joues piano, ils font tout ça malgré toi. Tu ne leur donnes pas. Et c'est de ça qu'ils ont besoin.
Comment dois-je faire pour éviter qu'ils tapent ?
Tu vas trouver. Fais-le, c'est tout. Fais ce que papa te demande.
Autrement dit, fais comme Koussi m'a appris. Si vous croyez que nous en avons terminé avec l'année 57-58, eh bien détrompez-vous. La semaine prochaine, je vais vous raconter la grande aventure de West Side Story, qui a été donnée pour la première fois en 57. C'était A Summer with Lenny, A Love Affair with Lenny, Un été avec Bernstein, une émission d'Emmanuel Franc qui a été réalisée par Éric Lancien, Françoise Monteil m'a aidé à la préparer. Bernard Loupias m'a aidé pour traduire les interviews et les interventions de Léni. Merci à Laurent Lederer pour sa voix, pour Léni. Et merci à Marie le peintre qui était à la technique. À la semaine prochaine.